Donc on a vu la dernière fois que l'apôtre Paul a mis l'accent d'une manière prononcée sur l'amour. Qu'est-ce qui compte le plus dans une église, dans une assemblée? Est-ce que c'est les dons spirituels, les dons charismatiques, comme on a l'habitude de le dire? Non, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour qui doit trôner, qui doit être au-dessus. Et c'est quelque chose que, apparemment, les frères de l'église de Corinthe avaient oublié. Aimer Dieu, premièrement, aimer ses frères et sœurs, aimer son prochain, c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment, ça doit être notre point focal, notre but, notre priorité, aimer. Mais pourquoi Paul a recentré cette église de Corinthe vers l'amour? Pourquoi? Parce que les Corinthiens avaient mis beaucoup d'emphase, beaucoup d'accent vers les dons, et notamment sur un don, le don du parler en langue. Et on voit que l'apôtre Paul y consacre presque tout un chapitre de l'Épître, le chapitre 14. Mais pourquoi? Est-ce que dans ce chapitre, est-ce qu'il est en train de dire, mais il faut parler en langue, je vous en prie, est-ce qu'il est en train de décrire, mais vraiment c'est le meilleur des dons, il faut que vous parliez en langue? Non, pas du tout. Au contraire, pratiquement dans tout le chapitre 14, on voit que Paul dissuade plutôt de parler en langue, même s'il ne dit pas qu'il ne faut pas parler en langue, il dit, mais parler en langue. Mais on va voir ensemble, on va étudier ce chapitre. Alors d'abord, on va lire le chapitre 14 et on va lire donc les 28 premiers versets. Donc 1 Corinthiens, chapitre 14, 1 à 28. Paul dit, recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés rendent un son comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la méchanceté, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants, La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée, l'église entière, de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs et des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue ? Que deux ou trois, au plus, parlent, chacun son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Je vais donc m'arrêter ici pour ce matin. Alors, après cette lecture, j'aimerais tout d'abord poser une question. J'ai ma petite sœur qui est en train de lire, je pense qu'elle a fini maintenant, mais elle lisait 1 Corinthiens. Et donc, elle a lu ce chapitre, elle m'a envoyé un texto, elle me dit, qu'est-ce que c'est le parler en langue ? Qu'est-ce que c'est le parler en langue ? Et c'est bien de commencer, avant d'expliquer ce chapitre 14, de commencer par là. En fait, c'est quoi juste le parler en langue ? Est-ce que c'est la langue des signes ? Est-ce que c'est la langue des anges ? Est-ce que c'est des langues étrangères ? C'est quoi au juste ? Et on ne peut pas expliquer ce chapitre simplement avec une expérience ou avec un ressenti. Ce n'est pas possible. Mais on explique la parole de Dieu par la parole de Dieu. La Bible s'explique par elle-même. Ça, c'est une règle qui est fondamentale pour pouvoir comprendre ce que Dieu dit. Comment vais-je comprendre ce que Dieu dit dans ce chapitre 14 ? En prenant la Bible et en cherchant dans toute la Bible ce que Dieu dit sur le même sujet. Et en recoupant comme ça les passages, je vais finir par comprendre ce que Dieu dit dans ce passage. Et l'autorité, ce n'est pas mon expérience, ce n'est pas mon vécu, ce n'est pas ce que j'ai goûté ou que j'ai fait. L'autorité, c'est l'Écriture. C'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Moi, je le prends toujours un peu comme un filtre. Je peux vivre quelque chose, mais attends. Qu'est-ce que Dieu dit ? Est-ce que ça passe dans le filtre ? Si ça passe pas, hop, je mets mon expérience de côté et c'est tout. Hein, à ce moment-là, je peux ressentir ou vivre des choses. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alors, j'ai répondu à ma petite sœur, lis acte 2 et tu vas comprendre. Simplement, lis acte 2. Et donc, elle me répond, peut-être 10 minutes après, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est simple, hein ? C'est très simple. Qu'est-ce qu'elle a compris ? Logiquement, elle a compris que dans l'église de Corinthe, ils étaient en train de pratiquer le don des langues qui était apparu le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'elle a compris. Un Corinthien, en fait, est la continuité, en fait, de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est simplement la continuité. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Et j'aimerais qu'on prenne acte 2 quand même, que vous compreniez vraiment qu'est-ce que c'est de parler en langue. Acte 2. Et on va lire les versets 1 à 11. Ça va nous remettre un petit peu dans le contexte pour avancer. Acte 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, c'est-à-dire les disciples du Seigneur. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, quand on analyse ce texte, d'abord, donc on comprend qu'ils ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Le Saint-Esprit est entré dans leur cœur. Il s'est même montré d'une manière visible, avec des petites flammes au-dessus de la tête, et puis il est rentré dans leur cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui a accordé ce don, le don du parler en langue. Alors, en quoi consiste-t-il? C'était une capacité soudaine à pouvoir parler des langues étrangères qu'ils n'avaient pas apprises et dans lesquelles ils vont se mettre à louer Dieu, voilà, adorer Dieu et chanter Dieu, enfin, vraiment l'élever dans leur cœur. Un point qui est important, c'est qu'il y avait beaucoup de Juifs qui étaient à Jérusalem pour la fête. La fête de Pentecôte, à l'origine, c'est une fête juive. Et donc, tous les Juifs de tout partout autour du bassin méditerranéen étaient venus pour fêter la Pentecôte. Et donc, il y avait énormément de Juifs qui étaient là, de partout. Des Juifs qui étaient nés ailleurs, et donc qui avaient une langue maternelle qui était autre que celle que l'hébreu ou l'araméen. Et eux étaient tous habitués à louer Dieu, à adorer Dieu, et à chanter les merveilles, à raconter les merveilles de Dieu en hébreu. Et là, ici, ils entendent qu'on est en train de louer Dieu et de l'adorer dans leur langue maternelle et pas en hébreu. Et ils voient que c'est des Juifs, des Galiléens, qui n'avaient pas appris leur langue, le parthe, le mède, l'élamite ou d'autres langues. Et là, ils sont surpris. Comment c'est possible qu'on adore Dieu dans des langues étrangères? Et ces Juifs étaient touchés dans leur cœur. Mais pourquoi ils étaient touchés? Parce qu'ils comprenaient ce qui était en train d'être dit, puisque c'était leur langue à chacun. Alors, ils comprenaient. Alors, certains étaient touchés, comprenaient, ils en étaient ébahis, comment c'est possible? Et puis d'autres se moquaient, ils disaient, mais ils sont sous, ils disent n'importe quoi, parce qu'ils ne comprenaient rien. Et donc, ils disaient, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est là, dans ce contexte-là de la Pentecôte, que l'apôtre Pierre va se mettre à prêcher l'Évangile. Il va prêcher à tous ces Juifs qui étaient là et leur annoncer Jésus-Christ qui était venu mourir pour leurs péchés quelques temps auparavant. Maintenant, on est dans le livre des Actes, chapitre 2. Si on avance dans le livre des Actes et on va chercher la prochaine mention du parler en langue, on arrive au chapitre 10 et c'est l'apôtre Pierre qui est devant des païens, Corneille et ses amis. Donc, que se passe-t-il? Acte 10, versets 44 à 46. Donc, Pierre a été poussé par le Seigneur à se retrouver dans cette maison de païens, et puis ils sont là en train d'attendre, mais tu as quelque chose à nous dire de la part de Dieu, vas-y, dis-le-nous. Alors, il va prêcher l'Évangile. Et là, ces païens vont recevoir l'Évangile, ils vont y croire. Et regardez, verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Quelle différence entre acte 2 et acte 10? Aucune. Il n'y a pas de différence. C'est la continuité. Le Saint-Esprit descend sur eux comme il était descendu à la Pentecôte. Ils se mettent à parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises comme à la Pentecôte. Et ils glorifient Dieu comme à la Pentecôte. Alors peut-être certains se sont mis à prier en parthe, d'autres en égyptien. Mais Pierre trouve ça tout à fait normal. C'est ce qu'il a vécu quelque temps avant. Donc, c'est normal. Et puis, il dit, c'est clair, ils ont reçu le Saint-Esprit. On va les baptiser. Allez, ils sont au Seigneur, c'est merveilleux. C'était identique. Puis, on avance. Et la prochaine mention du parler en langue est quand même assez loin. Juste avant, chapitre 18, c'est l'évangélisation de la ville de Corinthe. Ah, c'est intéressant. C'est notre épître, là. Donc, c'est l'apôtre Paul et d'autres qui vont passer par Corinthe. L'église de Corinthe n'existe pas encore. Et Paul va travailler là pendant un an et demi. Un an et demi où il va prêcher l'évangile, expliquer, mais Jésus est mort pour vous, croyez en lui. Et vous, eh bien, vous naîtrez de nouveau, vous aurez la vie éternelle, le pardon de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés. Et des païens, comme des juifs, vont croire dans cette ville de Corinthe. Ils vont être remplis du Saint-Esprit. Et certains, eh bien, vont se mettre à parler en langue. Il ne faut pas perdre de vue que là, toujours dans ce livre des Actes, il y avait énormément de juifs. Et l'apôtre Paul, quand il arrivait dans une ville, il allait premièrement à la synagogue. Et commencer à prêcher là autant que possible. Donc les juifs ici sont partout. On est en train de les voir partout dans le livre des Actes. Ils prêchent et certains juifs acceptent, d'autres n'acceptent pas. Il y a diverses réactions. Et en même temps, des païens se convertissent et on se met à adorer Dieu dans toutes les langues, et notamment ici à Corinthe en grec. Mais ensuite, Paul va quitter Corinthe. Et il va à Éphèse, en Asie mineure. Il va rester à peu près 3 ans dans cette région d'Asie mineure. Et puis, il va écrire la lettre aux Corinthiens, donc la lettre qui nous intéresse. Et qu'est-ce qui s'était passé? L'église de Corinthe, de son côté, eh bien, avait pris de l'expansion, elle avait grandi, ça s'était multiplié. Et puis, les personnes qui composaient l'église avaient aussi reçu des dons. Mais il y avait du désordre. On était en train de pratiquer des dons, mais d'une manière anarchique. Alors l'apôtre Paul écrit une lettre pour remettre de l'ordre dans l'église de Corinthe. Et notamment à cause de dons spirituels, de dons des charismes qui ne s'exerçaient pas de la bonne manière ou plus de la bonne manière. Quel était le don du parler en langue à Corinthe, dans l'église de Corinthe? Mais c'était le même que celui de la Pentecôte. C'est toujours la continuité, hein. On est en train de prolonger le Nouveau Testament, exactement le même don qui était apparu 23 ans auparavant, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas un changement ici. Voilà, c'est la poursuite de l'histoire. Et à Corinthe, c'était la cacophonie. On louait Dieu tous ensemble, en phrygien, en parthe, en mède, et tous en même temps. Et imaginez, on parle tous une langue différente, et tous on loue Dieu dans notre propre langue. Une vraie cacophonie. Paul dit non, stop, stop, stop. On va remettre de l'ordre, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Alors je fais un aparté. Mais alors pourquoi, et peut-être vous en avez entendu parler, si vous n'en avez pas entendu parler, eh bien vous en entendrez peut-être un peu parler, pourquoi certaines personnes disent que le don du parler en langue, en fait, c'est la capacité de pouvoir parler la langue des anges. Une langue céleste, une langue qui vient des anges. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a quand même pas mal de chrétiens qui sont comme nous, c'est nos frères et sœurs, mais qui ont une pensée différente et qui disent qu'ils parlent la langue des anges. Mais sur quoi on se base pour dire cela? On se base essentiellement sur l'expérience. C'est l'expérience. L'expérience de la pratique d'un enchaînement de sons qu'on va prononcer aléatoirement avec sa bouche, avec sa langue, et même de leur propre aveu, c'est déraisonnable. C'est complètement déraisonnable. Ils le disent, mais pour eux, eh bien, il faut être humble pour accepter ça. Voilà. Même si ça crucifie d'une certaine manière sa raison. Parce que qu'est-ce qui vient appuyer réellement le parler en langue dans la Bible? Qu'est-ce qui vient appuyer le parler en langue dans la Bible? Jugez vous-même. Il n'y a que 3 passages, et là je pèse mes mots, qui pourraient peut-être ouvrir l'éventualité d'une langue des anges qu'on pourrait parler, je ne sais pas. Et encore, en réalité, il y a un seul passage qui parle explicitement d'une langue des anges. Un seul passage. Donc je vous donne ces 3 passages. Le premier, c'est lorsque Paul est enlevé jusqu'au 3e ciel. Donc il va vivre une expérience. Voilà, il le décrit, c'est un miracle. il dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps, j'en sais rien, mais j'étais enlevé au paradis. Et même, il le partage avec une certaine humilité, parce qu'il va en parler à la troisième personne, il va parler d'un homme, en fait, il est en train de parler de lui-même. Il dit, cet homme fut enlevé dans le paradis, et il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors certains se sont dit, mais derrière ces paroles merveilleuses, c'est la langue des anges. Voilà, la langue des anges. Mais quand bien même, ce serait la langue des anges qu'il a entendue, et peut-être, il dit qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ce n'est pas permis à un homme de les dire. On ne peut pas les dire. L'homme ne peut pas. Enfin, c'est réglé. On range ce passage. On prend un autre passage. Deuxième. C'est l'apôtre Paul qui dit en Romains 8 que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et là, on s'est dit encore, mais voilà, c'est la langue des anges. Mais il dit par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, on ne peut pas les exprimer. Non. Ah non, pas ça. Alors, il reste un passage. Un passage. 1 Corinthiens 13, verset 1. Donc, c'est le passage qui a été affiché pendant le culte. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et notez bien ici, c'est un conditionnel. Alors pour rappel, le conditionnel, eh bien, ça exprime une hypothèse ou quelque chose qui est soumis à condition. Alors si je prends d'autres traductions, brièvement, la Bible en français courant dit « Supposons que je parle les langues des hommes et des anges ». La Bible d'Harvey dit « Si je parle les langues ». La Semeur dit « Supposons que je parle ». Et beaucoup d'autres versions comme la nôtre dit « Quand je parlerai », ça revient à dire « Si je parlerai », pareil. Donc, c'est toujours un conditionnel avec l'hypothèse, si c'était possible. Ainsi, on peut dire que la seule réelle mention de la langue des anges dans la Bible est une phrase au conditionnel. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et je peux tourner la Bible dans tous les sens. Il n'y a que ça. Il n'y a rien si ce n'est l'expérience. Ah mais moi je l'ai vécu, je sais. Moi je parle la langue des anges, je le sais. Ok ? Mais qu'est-ce que dit la Bible ? Est-ce que ça passe dans le filtre ? Ben non, ça ne passe pas dans le filtre. La référence, c'est la parole divine inspirée. C'est ça la référence. Qu'est-ce que Dieu dit ? C'est ça qui est important. À noter que les Béréens dans Actes 17, vous savez, ils ne vérifiaient pas ce qu'on leur disait en fonction de leur vécu et de leurs expériences, mais ils vérifiaient ce qu'on leur disait en fonction de ce qui était écrit, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc la référence, c'est toujours, on revient à la Bible et on cherche qu'est-ce que dit Dieu dans la Bible. Je ferme la parenthèse sur le parler en langue des anges. Et donc, si on revient dans le chapitre 14 maintenant, donc il nous parle du don des langues, qui était la capacité de parler des langues connues, des langues étrangères, sans les avoir apprises. Et on va avancer dans ce chapitre 14 et voir comment Paul nous pousse plutôt à rechercher autre chose. Tout d'abord, en leur montrant qu'il y a des dons qui édifient bien plus que d'autres. Et l'apôtre Paul prend le don de prophétie et dit, mais ça édifie davantage. Regardez ce qu'il dit, acte 14, versets 1 à 4. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc Paul met deux dons l'un à côté de l'autre, donc le don des langues et le don de prophétie, et il vante en quelque sorte le don de prophétie. Pourquoi ? Parce que par le prophète, par la prophétie, le frère était capable d'apporter un enseignement qui était direct, une exhortation qui était directe, une consolation qui était directe. Il parlait dans la langue de l'assemblée, et donc il édifiait l'assemblée d'une manière qui était claire, qui était limpide, et ça touchait, hein, forcément, ça touchait les cœurs. Tandis que si quelqu'un se mettait, par exemple, à louer Dieu en phrygien, eh bien, c'était un mystère pour les Corinthiens qui ne connaissaient pas le phrygien. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Ben, je ne sais pas. Ça en restait là. Donc, ça voulait dire que l'édification de l'Église, zéro, nul. Il convient aussi de souligner une chose, c'est que Paul dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il est en train de parler à Dieu. Donc, c'était une louange qui était adressée à Dieu. Ce n'était pas un message de Dieu destiné aux hommes, mais plutôt une louange de l'homme destinée à Dieu. Et c'est vraiment important. Parce que ça signifie que tout parler en langue, tel qu'on peut parfois l'entendre hein, dans des assemblées, et qui contiendrait un message destiné à un frère ou à une sœur, ben c'est faux, c'est un mensonge. Dieu dit que c'est une louange qui lui est destinée. Ce n'est pas un message qui est destiné à un frère ou une sœur. Il le dit très clairement. On voit ensuite que le verset 4 dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? En quoi le chrétien pouvait s'édifier lui-même lorsqu'il était en train d'exercer son don des langues ? Pour le comprendre, on peut lire le verset suivant, le verset 5. Donc verset 4 et 5, verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Et Paul n'est pas contre le parler en langue, mais il dit d'abord, mais la prophétie, elle est supérieure au parler en langue, parce que la prophétie apporte une édification d'une manière qui est directe. Mais il ajoute, à moins que ce dernier n'interprète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que celui qui est en train de parler en langue, il est en train de comprendre ce qu'il dit et il est capable de traduire. Il est capable de le traduire. Il a « Je loue Dieu », par exemple, en finlandais, et puis, voilà, « Je vous traduis hein? ». Il y a quelques étrangers ici. S'ils se mettent à louer Dieu, il se met à louer Dieu en allemand, moi, je ne comprends rien. Mais si, dans la seconde d'après, elle traduit sa prière, bon, ben, je suis édifié. Mais si c'est une langue que je ne connais pas et que personne ne connaît, alors, eh bien, ça ne sert à rien. Mais ça suggère quoi aussi ? Ça suggère que quand il dit « il s'édifie lui-même », en fait, il s'édifie lui-même quand il comprend ce qu'il est en train de dire. Quand il a la capacité d'interpréter, de traduire, alors il est en train de s'édifier lui-même. On s'édifie quand on se comprend soi-même. Et c'est important parce qu'en prenant le verset 4, on en a déduit qu'il suffit de parler en langue dans sa chambre, tout seul, sans personne, quoique les dons ont été donnés pour l'utilité commune, hein, disent les Écritures, mais néanmoins, si on parle en langue tout seul dans sa chambre, certaines personnes se sont dit « mais je suis en train de m'édifier moi-même, même si je ne comprends pas ce que je dis, je suis en train de m'édifier moi-même. » Ben non, c'est faux. Il y a de l'édification pour soi-même et pour l'Église s'il y a une compréhension de ce qu'on est en train de dire. Si ça nourrit mon intelligence, alors là, je suis en train de m'édifier. Toute l'argumentation de Paul dans ce chapitre est en train de dire, mais si l'Église ne comprend pas, elle n'est pas édifiée. Alors, ben, si moi, je ne comprends pas, je ne suis pas édifié non plus. Sans compréhension, édification nulle. Ensuite, Paul va prendre son propre exemple, verset 6. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je Si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. » En fait, c'est logique. Hein. Si Paul arrivait et parlait dans une langue qu'il ne connaissait pas, ben, ça ne sert à rien. Mais en fait, quand il venait, il donnait des paroles qui étaient claires, qui étaient distinctes de l'enseignement. C'est quelque chose d'essentiel. Parce qu'apparemment, eh bien, comme je vous le disais, les Corinthiens, ça leur allait bien. Hein, de parler tous ensemble, des langues différentes, sans rien comprendre. Tout allait bien pour eux. Ils se disaient, mais c'est merveilleux. On est en train d'exercer un don spirituel par l'esprit. C'est merveilleux, on le fait. Mais ça ne servait à rien, ni à personne. Paul leur dit dans les versets qui suivent que ce n'est pas de faire du bruit qui compte, et littéralement c'est le mot phoné. Ce n'est pas d'émettre des sons qui comptent, hein, mais c'est l'édification pour soi-même et pour les autres. Il dit sinon, c'est parler en l'air, verset 9. C'est parler dans le vide, c'est parler pour rien. Alors il dit, ben, c'est vrai, tu rends d'excellentes actions de grâce. Mais personne n'est édifié, même pas toi-même. C'est un petit peu comme si un évangéliste, il a le don d'évangéliste. Il prépare des messages dans sa chambre, il les prêche au mur, tout seul, et puis c'est tout. Après, il jette le message, il prépare un autre message, et il prêche l'évangile au mur. Ou bien quelqu'un qui a un don d'exhortation, il écrit ses exhortations pour les frères et sœurs, et puis après, il jette le papier et il exhorte personne. Ben, c'est pareil. Si ça ne sert pas. Donc, pour le parler en langue, il fallait qu'il y ait du sens aux paroles qu'on est en train de prononcer. Regardez versets 10 et 11. Il dit « Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. » Et c'est intéressant ça. Je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et le don des langues, quand il était mal utilisé, en fait, mettait une barrière entre les gens. Hein, on se trouvait barbares les uns les autres, plutôt qu'ils rapprochaient. Quand Dieu a divisé les langues à Babel, c'était pourquoi ? C'était un jugement. C'était parce qu'il voulait séparer les peuples, parce qu'ils étaient en train de s'unir contre lui. Maintenant, dans l'Église, son but, c'est pas de diviser, créer des barrières par des langues incompréhensibles. Au contraire, son but, c'est d'unir avec une langue compréhensible, avec une louange compréhensible. C'est pour ça que Paul dit, versets 13 et 15, « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit ? Oui. » Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et même si le don de parler en langue était un don spirituel, un don qui s'exprimait comme une manifestation du Saint-Esprit, Paul dit, mais demandez le don d'interpréter, demandez la capacité à traduire ce que vous dites. Et toujours pour la même raison, édifier et s'édifier soi-même. Et là encore, on voit que parler en langue tout seul, dans sa chambre, sans rien comprendre, ben c'est inutile. Parce que l'intelligence n'est pas nourrie, et donc ça ne sert pas. L'édification ne peut venir que par la compréhension, et donc par l'emploi de son intelligence. Si je ne comprends pas ce que je dis, je ne m'édifie pas moi-même. Mon intelligence est stérile, dit-il. Versets 18 et 19. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Ça veut dire que Paul préférait 10 fois plus. Non. 100 fois. Non. Il préférait combien ? 2 000 fois plus dire une parole compréhensible que dire une parole incompréhensible. 2 000 fois plus. Hein, sérieux. Et on se dit, mais quelle place reste-t-il pour un parler en langue dont on ne comprend strictement rien ? Il ne reste aucune place. S'il n'y avait pas une traduction, alors il y a une place faible dans les assemblées. Maintenant, il est aussi important de comprendre le pourquoi du don des langues. Pourquoi Dieu a fait ce don, a donné ce don à la Pentecôte. Quelle est la raison pour laquelle il a permis cette capacité miraculeuse? Alors, je lis des choses incroyables sur Internet. Vraiment, c'est surprenant. Par exemple, Dieu l'aurait donné pour tester l'humilité de la personne. Parce que comme elle émet des sons qu'elle ne comprend pas, qui ne veulent rien dire pour elle, eh ben, c'est déroutant. Et donc, il faut beaucoup d'humilité pour accepter qu'on fait un truc déroutant. En fait. Mais tout l'argumentaire de Paul, ici, pousse en faveur d'un usage raisonnable, compréhensible, qui édifie. Et donc, c'est le contraire de ce qu'on peut lire ou affirmer sur Internet. Quel est le but premier du parler en langue? Regardez versets 20 à 22. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Et les Corinthiens voulaient parler en langue, et ils parlaient en langue, diverses langues. Mais Paul leur rappelle le but. Il dit, mais quel est le but du parler en langue? Et il dit, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. C'est-à-dire, soyez des hommes mûrs, des hommes assis, des hommes qui comprennent ce qu'ils font. Et le parler en langue était un signe de jugement pour les non-croyants juifs. Pour les non-croyants juifs. Et Paul, ici, va citer un texte de l'Ancien Testament. Il va citer le prophète Ésaïe. Et quand on prend ce texte d'Ésaïe, on voit que c'est une parole de jugement. C'est le prophète donc Ésaïe qui va annoncer la captivité du peuple juif à cause de leur infidélité. Il va dire, vous allez être captifs. Et il dit, voilà, c'est par des lèvres balbutiantes, par des lèvres, des paroles de barbares que je parlerai à ce peuple. Et quelles sont ces langues ou cette langue? En fait, c'était les Assyriens qui allaient venir et qui allaient prendre Israël et les emmener en captivité. Donc c'était un jugement. Et ici, l'apôtre Paul va prendre ce passage et il va en faire une application nouvelle, inspirée, et cette fois il en fait une application aux Juifs de la Pentecôte. Mais de la même manière, comme c'était un jugement dans l'Ancien Testament, c'était d'une certaine manière un jugement aussi pour les Juifs de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que Dieu maintenant allait se tourner vers les pagans, et ainsi que le dit la parole, Israël allait être retranché de l'olivier franc pour un temps, et puis les pagans allaient être greffés, donc sur la souche. Et les langues étaient donc un signe pour les non-croyants juifs. Quand Paul dit non-croyant, il n'est pas en train de dire pour les athées. Il n'y avait pas d'athées à cette époque-là. Tout le monde était croyant. On croyait en n'importe quoi, mais tout le monde était croyant. Et tous les juifs étaient croyants. Quand il dit ce peuple, c'est le peuple juif. Hein. Et donc, il est en train de dire, mais les non-croyants, c'est les non-croyants dans le Messie. Ceux qui n'ont pas accepté le Messie d'Israël. C'est eux, les non-croyants. Et donc, c'était pour eux que le don des langues était un signe. Et c'est ce que ça a été vraiment le jour de la Pentecôte. C'était un signe pour tous ces Juifs qui n'avaient pas cru encore dans le Messie d'Israël. Et ça pouvait être toujours un signe au temps de l'apôtre Paul, parce que les chrétiens étaient en contact constant avec des milieux juifs, et les religieux, et les synagogues. Et donc, ça continuait aussi à être un signe. Maintenant, si on regarde aujourd'hui, est-ce que c'est un signe? Est-ce que ça pourrait être encore un signe? Est-ce que ça a lieu d'être? En fait, Dieu n'a plus besoin de ce signe pour montrer aux Juifs qui se tournent vers les païens. C'est désormais fait. Les païens adorent Yahvé en d'autres langues. Et donc, le signe n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Enfin, Paul dit que parler en langue, tel que le pratiquaient les Corinthiens, ça desservait même la cause de l'Évangile. C'est-à-dire, en plus, c'était contre l'Évangile. Pourquoi? Il dit, verset 23, « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Et c'est sûr, si vous rentriez à cette époque-là dans l'église de Corinthe, vous n'avez pas encore cru et vous entendez tous ces gens qui louent dans plein de langues, vous dites, mais ça ne va pas la tête. Maintenant, transposez-le aujourd'hui. Imaginez, vous rentrez dans une assemblée et en plus, vous n'entendez pas des langues connues, mais vous entendez des gens qui disent parler la langue des anges. Alors là, et c'est ce qui arrive malheureusement, les personnes rentrent dans une assemblée, ils ressortent, ils disent ça va pas, hein. Il y a quelque chose qui va pas, hein. Ils sont complètement fous. Et donc ça dessert la cause de l'évangile. Paul se sert donc de ça pour dire, mais franchement, c'est mieux de prophétiser, c'est beaucoup plus édifiant. J'arrive bientôt à la fin, hein. J'ai essayé de compresser, mais j'y arrivais pas, il était impossible. Et logiquement, quand vous avez lu tout ce chapitre 14, ben on ne devrait pas désirer parler en langue. Après avoir lu ça, en tout cas, ça ne devrait pas être notre première aspiration, ou si c'était le cas, eh bien vraiment avec le don d'interpréter. Mais Paul va plus loin, et je termine, et j'aimerais faire juste un petit retour en arrière, et terminer avec le passage d'1 Corinthiens 13, et on va lire le verset 8 d'abord. 1 Corinthiens 13, verset 8. Il dit « L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. » Donc il y a 2000 ans, Paul prophétise là. Il est en train de prophétiser. Il parle de la fin des prophéties, de la fin des langues et de la fin de la connaissance. Il dit que ça allait cesser, ça allait s'arrêter. Alors la grande question, c'est quand ? Tout le monde se pose cette question. Quand ? Est-ce que ça a déjà cessé ? Ou bien est-ce que ça continue encore aujourd'hui et ça va cesser peut-être un jour ? Alors Paul parle d'abord de trois choses. Il parle des langues, il parle de la prophétie, il parle de la connaissance. Les deux dernières, la prophétie et la connaissance, c'était ce qui permettait aux chrétiens d'être enseignés. C'était par ça qu'ils recevaient l'enseignement. Il est important de savoir qu'à cette époque-là, les chrétiens n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Ils avaient peut-être tout au plus une épître ou deux qui circulaient. Peut-être qu'ils avaient l'évangile de Matthieu qui avait été déjà écrit, encore. S'ils avaient une copie, on n'en sait rien, peut-être pas. Et c'est tout ce qu'ils avaient avec l'Ancien Testament. Donc ça ne fait pas beaucoup au niveau du Nouveau Testament. Alors, on peut se poser la question, mais comment vivre la vie chrétienne si vous n'avez pas le Nouveau Testament ? Vous n'avez que l'Ancien Testament. Comment comprendre la grâce ? Comment, bien sûr, on peut entrevoir la grâce ici ou là, par-ci, par-là, dans l'Ancien Testament, mais comment comprendre la marche avec Christ ? Comment comprendre ce qu'il attend de nous ? Comment ne pas retomber finalement dans les 10 commandements ? Comment faire pour avancer avec le Seigneur ? Alors Paul dit, 1 Corinthiens 13, 9, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Donc Dieu accordait des dons spirituels, c'était celui de la connaissance, celui de la prophétie, pour enseigner son peuple. Donc Dieu prenait soin de son peuple en donnant les dons de prophétie et de connaissance. Ainsi, eh bien, un prophète, par exemple, eh bien, donner une exhortation, donner une édification, donner une consolation, ou disait, mais voilà ce que Dieu dit, dans quelles circonstances, comment il faut faire. Alors les chrétiens, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, mais Dieu était en train de leur donner la béquille. C'est-à-dire, hop, ils n'avaient même pas à chercher dans la Bible. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Mais alors, il leur donnait comme ça. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut marcher avec le Seigneur. Et il leur donnait toutes sortes de conseils, de recommandations et de commandements. Mais Paul dit, verset 10, « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » C'est-à-dire, ce qui est temporaire sera terminé. Qu'est-ce qui était partiel là ? Ben, c'est les langues, les prophéties, la connaissance. C'est ça qui est partiel dans le texte. C'est clairement ça. Littéralement, partiel, c'est constituer une partie, mais pas un tout, pas un achèvement. Donc, il dit qu'à la venue du parfait, les choses partielles n'auront plus lieu d'être. Elles disparaîtront. Et alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est le parfait qui va faire disparaître les prophéties, les langues, la connaissance? Le mot grec pour parfait signifie qui achève, qui complète, qui mène à terme, accompli, ou à qui rien ne manque pour être complet. C'est ça le terme en grec. Et c'est intéressant parce que Jacques utilise ce terme dans son épître, et il l'utilise pourquoi? Il dit la loi parfaite, la Bible. C'est la Bible en fait, c'est ça. Le parfait, c'est la Bible, c'est le canon complet des Écritures. Ça, c'est le parfait. Quand le parfait sera venu, on n'aura plus besoin du partiel. Ça sera plus nécessaire. Et les chrétiens n'avaient pas toute l'Écriture, alors ils avaient besoin d'être nourris comme ça. Mais maintenant, Dieu dit, lis ta Bible. Hein, tu veux une réponse? Lis ta Bible. Et Dieu te parlera, il te dira. Plonge-toi dans les Écritures. Et les réponses sont là, elles sont toutes là. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et on peut dire que Paul décrit un stade de croissance, de maturité. Hein, et là, les Corinthiens étaient en chemin. L'église de Corinthe n'était pas mature. Elle n'était pas encore mûre. Elle n'était pas encore un homme. Elle était encore dans l'enfance, en fait. Alors, bien Dieu est donné, comme ça, gracieusement. Mais une fois que la Bible serait entre leurs mains, il faut devenir un homme. Il faut lire sa Bible. Il faut étudier. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et on peut dire que les chrétiens, à l'époque de Paul, se voyaient d'une manière obscure. Pourquoi ils se voyaient d'une manière obscure, comme dans un miroir? Parce que les miroirs étaient faits de plaques de métal martelées. Alors, vous ne voyez pas très bien. Hein, c'est pas nickel pour se maquiller le matin. Hein, je vous garantis, là. Hein, ou bien pour se raser. Quoi qu'on ne se rasait pas beaucoup, on se maquillait moins. Mais on se voyait pas nettement, clairement. Et de la même manière, les chrétiens de Corinthe, comme les autres chrétiens, n'avaient pas une image d'eux-mêmes qui était nette, qui était parfaite. Et là encore, imaginez si vous n'avez que l'Ancien Testament. Et si vous avez entendu, on vous a lu une lettre, et on vous a lu qu'une lettre, vous n'avez pas grand-chose, hein, à quoi vous vous accrochez, en fait. Hein. Et donc, vous ne pouvez pas vous voir tel que vous êtes réellement. Vous ne pouvez pas voir tous vos péchés. Certes, le Saint-Esprit nous montre des choses, mais combien Dieu nous montre davantage encore en lisant les Écritures. Où là, Dieu, il vient pointer le doigt exactement là. Il dit, mais là, Seigneur, ah oui, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on voit nos faiblesses, qu'on voit nos manquements, nos péchés. On voit vraiment ce que nous sommes. Et on peut dire que leur compréhension était encore limitée. Mais Paul dit, lorsque le parfait sera venu, alors nous verrons face à face. Littéralement, il dit, mais alors face à face. Il n'y a rien d'autre, en fait. Mais alors face à face. On pourrait aussi le traduire, mais alors je serai face à face, je serai face à moi-même, en fait. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et on peut dire qu'au temps des Corinthiens, leur connaissance était très partielle. Mais une fois que toute la Bible serait là, alors ça y est, vous allez vous voir tel que vous êtes réellement. La parole à double tranchant, comme disait François, va pénétrer jusqu'au cœur. Elle va révéler ce que vous êtes vraiment dans votre nature, dans vos mauvais penchants, dans vos mauvaises habitudes. Et tout va être mis à la lumière par les Écritures. Paul aurait pu dire, nous le verrons face à face. Mais c'est pas ce qu'il dit. Par exemple, Jean dans son épître dit, nous le verrons tel qu'il est. Hein, on peut le dire, nous le verrons, c'est clair. Mais Paul ne dit pas nous le verrons face à face. Il dit non. Il dit alors face à face. Peut-être que ça paraît ambigu, mais quand on regarde l'ensemble du passage, eh bien, ce n'est pas Jésus-Christ, en fait. Et souvent, eh bien, on interprète ça en disant, mais en fait, nous le verrons face à face. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas Jésus-Christ, là. Paul termine, verset 13. Il dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et c'est intéressant de voir, et essayez-moi de me suivre, même si c'est un peu long, on arrive vraiment, je termine en même temps que lui. Paul, dans ce passage, parle de six choses. Six choses. Une, cesse, c'est les langues. Deux, sont abolies, c'est la prophétie et la connaissance. Et il dit qu'il y en a trois qui demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Et parmi ces trois, il dit que l'amour, lui, demeure éternel. D'accord ? Si on regarde la foi, elle va demeurer jusque quand ? Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Quand il va être là, je vais le voir de mes yeux. J'aurai plus besoin de croire en lui, je le verrai. Quand je le verrai, l'espérance au retour de Christ, bah ça y est, mon espérance est accomplie. Il me prend avec lui. Donc la foi et l'espérance, ça arrive jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et puis l'amour, lui, eh bien, il va perdurer éternellement. Maintenant, si comme certains le croient, les langues, les prophéties et la connaissance doivent rester jusqu'au retour de Jésus-Christ, pourquoi Paul n'a pas dit « il y a six choses qui demeurent » 5. Pour s'arrêter. Et une demeurera éternellement. Mais Paul fait une distinction. Il dit, il y en a une qui cesse, il y en a deux qui sont abolies, comme si c'est trop, alors que dans l'idée de cesser, eh bien, ça s'éteint. Et puis, il y en a trois qui demeurent, ce que ça suggère jusqu'au retour de Christ, et une qui demeure éternellement, c'est l'amour. Je m'arrête ici, et je tiens juste à terminer en disant que la plus grande chose, c'est l'amour. La plus grande chose, c'est l'amour. La plus grande chose, ce n'est pas le parler en langue et ce n'est pas de savoir que le parler en langue n'est plus aujourd'hui. Ce n'est pas la prophétie et ce n'est pas de savoir que le canon des Écritures est complet et qu'on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Et donc, il n'y a pas de nouvelle prophétie à apporter. Mais c'est d'aimer. C'est aimer Dieu, c'est aimer ses frères et sœurs, c'est aimer son prochain. C'est ça, vraiment, la plus grande chose aujourd'hui.